Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Les fonds pour la promotion de l'industrie sollicitent l'appui du gouvernement pour le recouvrement de sa créance estimée à environ 300 millions de dollars auprès des tierces. Information livrée par le ministre de l'Industrie ad intérim au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier. La ministre belge des Migrations arrive aujourd'hui à Kinshasa pour une visite de travail cette semaine. Elle échangera avec de nombreuses autorités congolaises sur les questions liées sur les allégations de hausse des demandes d'asile politique ou protection internationale des Congolais en Belgique. L'invité de ce journal, c'est le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Muindo Nzangi-Butondo. Il lance un signal fort pour la relance agricole, vision du chef de l'État congolais sur la revanche du sol sur le sous-sol au Maniema. Encore une fois, bonjour à tous. Le fonds pour la promotion de l'industrie sollicite l'appui du gouvernement pour le recouvrement de sa créance estimée à environ 300 millions de dollars auprès des tierces. Information livrée vendredi dernier par le ministre de l'Industrie ad intérim au cours du Conseil des ministres. Il a par ailleurs proposé un audit du portefeuille de créances afin d'identifier les mécanismes de recouvrement les plus efficaces pour détecter d'éventuels dysfonctionnements internes dans la gestion des ressources. D'autres détails dans cet extrait du compte-rendu de ce conseil lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katemboué, et sélectionné par Richard Junior Kamunga.
Cependant, au regard de la nature des dites créances, les dettes étant reconnues, les montants déterminés, les échéances dépassées et les débiteurs identifiés, attendre les conclusions de cet audit pourrait causer un préjudice financier, tant au FPI lui-même qu'au secteur industriel dans son ensemble, particulièrement en ce moment où l'économie congolaise dans son ensemble et les secteurs industriels en particulier, ont grandement besoin des ressources financières. Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a proposé l'implication du gouvernement par la mise en place d'une commission spéciale qui aura pour mission de catégoriser les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi, de négocier des protocoles de transaction pour les créances récupérables à l'amiable, d'engager des actions de recouvrement forcé avec l'appui de la force publique, de proposer des mesures conservatoires sur les patrimoines des débiteurs insolvables, faire accélérer l'avènement du décret portant mesures d'application de la loi numéro 23/032 du 28 juin 2003, modifiant et complétant l'ordonnance loi du 11/89/031 du 7 août 89 portant création de la taxe de promotion de l'industrie.
Dans le même ordre d'idées, dans la province de la Tchopo, les temps de l'impunité semblent révolus au sein de l'administration fiscale. Une quarantaine d'agents sont désormais dans les viseurs de la justice interne pour des fonds volatilisés. Les sommes dues varient de 20 000 dollars à plus de 24 000 dollars américains par individu. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'affaire fait grand bruit et l'administration a choisi la méthode forte pour que nul n'en ignore. Le communiqué officiel ne se contente plus des murs des installations de la DGRNFT. Il inonde littéralement les réseaux sociaux depuis quelques jours, circulant de groupe en groupe comme un avertissement public. Les agents concernés sont placés devant leurs responsabilités. Ils ont le choix de confirmer ou d'infirmer ces chiffres en apportant des pièces justificatives à l'appui devant l'inspection des services. Mais attention, le compte à rebours est lancé. Les concernés ont jusqu'au 15 avril pour régulariser leur situation. Passé cette date, la complaisance n'aura plus sa place. La direction l'annonce sans détour. La phase de répression deviendra effective contre ceux qui n'auront pas pu blanchir leur gestion. À la Tchopo, le message est clair. Chaque dollar dû à la province doit retrouver le chemin du trésor public. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis l'agence congolaise de grands travaux ACGT a remis au point focal de la présidence de la République le projet de construction de l'université de Mbandaka Unimba. La cérémonie de transfert s'est déroulée ce samedi entre le directeur général adjoint de l'ACGT, Claude Mido, et le conseiller principal à la présidence de la République, David Mokeba. La signature du procès verbal y afférent confère désormais ses projets à un nouvel investisseur. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
C'est dans les bâtiments administratifs du gouvernorat de la province de l'Équateur que ces deux personnalités, en présence du gouverneur, ont officialisé le transfert du projet de construction de l'université de Mbandaka. Ce programme passe ainsi du giron de la CGT jusqu'à attribué à la société Awa Limited, à la société Congo Civil Engineering. Dans son intervention, Jean-Claude Mido a assuré qu'une réaffectation de fonds initialement alloués sera opérée au profit de la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale de l'Équateur ainsi que d'autres projets prioritaires. Pour sa part, David Mukeba a rappelé que ce programme s'inscrit dans la vision visant à doter toutes les provinces de la RDC d'universités répondant aux standards internationaux, à l'instar de celles de Kananga, Mujimai, Kinshasa et Bunia. L'université de Mbandaka propose généralement des enseignements organisés autour de plusieurs facultés, notamment la médecine et santé publique, les droits, les sciences économiques et gestion, les sciences agronomiques, sciences sociales, politiques et administratives, la psychologie et les sciences de l'éducation.
La RDC reçoit dès ce lundi à Kinshasa la ministre belge des Migrations pour une visite de travail cette semaine. Elle échangera avec de nombreuses autorités congolaises sur les questions liées à ses prérogatives, notamment sur les allégations de hausse des demandes d'asile politique ou protections internationales. De quoi s'agit-il exactement? Pour faire plus simple, éclairage de Christian Makasinga.
La version officielle de cette visite belge sera donnée en fin de journée de lundi par la ministre belge elle-même au cours d'une conférence de presse prévue à l'ambassade de Belgique et de Kinshasa. La membre du gouvernement belge enchaînera mardi avec d'autres interventions médiatiques, notamment des interviews exclusives dans certains médias. Mais de la question des migrations dont on parle entre la Belgique et la RDC, il se murmure que le nombre de Congolais de la RDC qui demandent l'asile en Belgique a augmenté depuis l'année dernière, soit plus de 2000 demandes en 10 mois. Des demandeurs qui disent avoir besoin de protection internationale. Des raisons qui ne semblent pas convaincre l'administration belge qui soupçonne, elle, de raisons plutôt économiques. Selon des statistiques qui circulent dans la documentation publique, le Congolais reste à ses jours les ressortissants d'Afrique noire le plus nombreux en Belgique, soit plus de 40% de tous les Africains noirs vivant dans ces pays. Les autres pays concernés étant notamment le Rwanda, le Burundi, le Cameroun, le Sénégal et les Africains du Nord.
Vous ne le saviez peut-être pas, le 12 avril de chaque année est aussi la Journée internationale des enfants de la rue, instituée en 2011 par le Consortium pour les enfants des rues, un réseau international d'organisations de défense des droits des enfants. Cette journée est dédiée à la sensibilisation aux conditions de vie précaires de ces enfants et à la nécessité d'actions concrètes pour leur protection. Dans la région de Beni-Boutembo, au Nord Kivu, le phénomène connaît une nette aggravation depuis plus d'une année. Le point avec Martial Papimukeba.
Des enfants visibles à plusieurs coins des rues circulent dans les marchés, devant les banques et les supermarchés, des jours comme des nuits, dont certains réduits à la mendicité. C'est le constat préoccupant à Beni et Boutembo. Pour Joël Kavuya, encadreur principal du Parlement d'enfants dans la région, cette situation est en grande partie liée à l'arrivée massive d'enfants déplacés et enfui les conflits dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Il appelle à une prise en charge urgente par les autorités.
Depuis l'occupation de plusieurs zones par la FCM 23, de nombreux enfants déjà vulnérables et enfuis de Goma, Rutshuru, Kiwanja et Bukavu, parfois sans leur famille, et d'autres avec leur famille sans moyens, se retrouvent livrés à eux-mêmes en passant jour et nuit dans les rues de Beni et Boutembo à mendier. Nous appelons ainsi donc aux autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour leur protection et leur prise en charge.
Malgré nos tentatives, aucune réaction n'a été obtenue du côté des autorités en charge des affaires sociales à Beni et Boutembo. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
La province du Maniema réclame son intégration dans le projet couloir vert Kivu-Kinshasa. Disposant de plusieurs potentialités forestières et environnementaux, la province du Maniema mérite d'être partie prise du décret de Madame le Premier ministre. Les députés nationaux de Kailo, Amissi Patrick Lupia, plaident à la chef du gouvernement qu'elle révèle sur son décret afin d'intégrer aussi la province du Maniema. Amissi Patrick Lupia revient sur le contenu de son plaidoyer au micro de Florence Kizalunga.
Que la province de Maniema, après le démembrement de la Tchopo, du Grand Bandundu et de l'Équateur, la province de Maniema est restée la première province forestière et nous avons 3 aires protégées. Alors, on s'est étonné comment, lorsque madame la première ministre avait signé son décret et que la province de Maniema n'a pas été reprise dans ce décret-là. C'est pourquoi nous avons rappelé à madame la première ministre qu'on puisse revisiter ce décret et que la province de Maniema soit partie intégrale dans les décrets créant les couloirs verts Kivu-Kinshasa. Il y a beaucoup de programmes qui sont envisagés, non seulement par les gouvernements, mais aussi par les partenaires dans le secteur de l'environnement. C'est pour cela que nous voulions rester plus légal, des légalistes, parce que on ne veut pas que la province de Maniema fasse partie de ce processus comme province à la proximité de ces couloirs. Nous voulons que la province de Maniema soit partie intégrale légalement, c'est-à-dire qu'elle soit reprise dans les décrets portant création de ces couloirs vers Kivu-Kinshasa, étant donné que nous avons suffisamment de potentialités forestières et environnementales pour que nous puissions faire partie aussi de ces couloirs.
Ici à Kinshasa, la lutte pour un environnement sain ne relève pas uniquement des autorités. Des initiatives citoyennes émergent et s'intensifient. Ce samedi 11 avril, un groupe d'étudiants en bio-ingénierie a pris d'assaut les abords de la rivière Gombe au niveau du saut des moutons sous Simat pour une opération d'assainissement. Objectif est clair, lutter contre l'insalubrité et prévenir les risques d'inondation et de maladies. Les détails dans ce reportage signé et lâché Mbaloukomba.
Râteau, bêche et gants même. Ces étudiants en bio-ingénierie sont déterminés le long de la rivière Gombe. Près des seaux des moutons Sosimat, ils s'activent à collecter des déchets, principalement des bouteilles plastiques, accumulées dans les lits de la rivière et ses environs. Une action citoyenne qui s'inscrit dans une logique de prévention, comme l'explique Given Kodis, coordonnateur de l'événement.
Nous sommes animés d'une conscience basée sur la prévention des risques d'inondation et de contamination des maladies d'origine hydrique.
Au-delà de cette intervention, ces étudiants entendent inscrire leur action dans la durée. Pour eux, la gestion des déchets est un défi quotidien.
La pluie, elle pourrait s'arrêter, mais l'usage des biens ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps que nous utiliserons les biens et services, dans le quotidien, les déchets seront produits.
Un message également adressé à la population quinoise, invitée à adopter des gestes écologiques au quotidien, mais aussi aux autorités urbaines, appelées à renforcer les politiques d'assainissement. Dans la même dynamique, la directrice générale intérimaire du Fonds d'assainissement de Kinshasa insiste sur la responsabilité collective.
Kinshasa doit revêtir de sa plus belle robe. Et pour ça, il faut la contribution de tout le monde.
Une initiative qui rappelle que la salubrité de la capitale congolaise dépend autant des actions citoyennes que de l'engagement des pouvoirs publics.
Restons dans la capitale. Ce week-end, une nouvelle dynamique s'installe dans la société civile congolaise. L'Union des forces sociales pour les actions citoyennes congolaises a été officiellement lancée au centre Liloba en présence des chefs religieux, autorités coutumières, acteurs associatifs et représentants de la jeunesse. Objectif, fédérer les initiatives citoyennes et renforcer l'engagement autour des enjeux de gouvernance, des droits humains et de développement. Christian Makasinga.
Dans la salle centre Liloba dans la commune de Lemba, plusieurs forces vives de la nation se retrouvent pour assister à la naissance officielle de cette nouvelle plateforme citoyenne qui se veut apolitique et orientée vers des actions concrètes sur le terrain. Moment fort de la cérémonie, la remise des diplômes des mérites à des figures de la lutte pour les droits humains, notamment feu Doli Ibefombunga du mouvement La Voix des Sans Voix, feu maître Marie-André Mouila Kayembe à titre posthume ainsi qu'au coordinateur de la cage Action pour l'accès à la justice Georges Kapiamba empêché pour la circonstance. À la tête de ces structures, Jonas Chombela, coordonnateur national, met en avant une organisation déjà implantée à l'échelle nationale et tourne vers l'action collective.
Et nous parlerons sur le défi majeur des politiques publiques, de la gouvernance, du droit de l'homme, de la démocratie, de la participation citoyenne.
Une vision basée sur l'unité et la coordination des efforts que partage également le président du Conseil national, Ferdinand Mafolo.
Nous devons nous mettre ensemble, construire ensemble, travailler ensemble pour que ce pays se mette davantage.
Qui appelle surtout la jeunesse à s'impliquer activement pour bâtir un Congo debout. En point de mire de cette nouvelle structure, l'organisation prochaine d'un forum national pour réfléchir sur le défi de la société civile et du pays.
Actualité internationale.
Le pape américain effectue du 13 au 23 avril une longue tournée à travers 4 pays, l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Un voyage qu'il avait à cœur sur un continent qui ne lui est pas étranger et où l'Église catholique est souvent un maillon essentiel de la société, puissance spirituelle et sociale, mais aussi médiatrice de paix.
L'invité.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi-Butondo, lance un signal fort pour la relance agricole, vision du chef de l'État congolais sur la revanche du sol sur les sous-sols au Maniema. Participant à la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau, les patrons de l'agriculture encouragent la population du Maniema à la culture pérenne. Muhindo Nzangi-Butondo, notre invité s'entretient avec Florence Kizalunga.
Muhindo Nzangi-Butondo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de donner un go dans la province d'Imanima dans la relance de l'agriculture. Monsieur le ministre, la province d'Imanima est une province minière. Qu'est-ce que la population peut comprendre de cette vision du chef de l'État par rapport à la relance de l'agriculture dans le pays?
La province d'Imanima, moi, dans mes livres, c'est pas une province minière. C'est d'abord une province agricole. Ce sont les gens qui sont en train de la faire aujourd'hui, une province minière. L'activité principale d'Imanima, c'est l'agriculture. Bon, maintenant, les gens ont abandonné l'agriculture et ils sont en train de vouloir trouver d'autres parades, notamment à réveiller les mines. Mais nous croyons que c'est une province minière. L'histoire de cette province nous le démontre. C'est la province qui disposait avant l'indépendance des plus grands nombres d'infrastructures agricoles. Donc nous considérons que c'était poumon agricole de l'Est de la RDC.
Vous reconnaissez que la province d'Imanima, c'est un poumon agricole. Qu'est-ce que le gouvernement central prévoit pour cette province?
Nous voulons relâcher l'agriculture à cette province à travers trois actions phares. La première, c'est la construction, la réhabilitation et l'équipement du CAPSA de Lubutu. L'objectif, c'est que nous puissions avoir une autonomie de production de semences. Pour le maniema, nous avons prévu les riz, les manioc et les maïs. Deuxième action que faire, vous avez vu que nous avons commencé à implanter des pépinières dans chaque territoire. L'objectif pour nous, c'est d'avoir 250 000 plantilles de café, cacao et palmiers dans chaque territoire. Nous sommes déjà dans 4 territoires et nous croyons que les autres territoires qui restent, très rapidement, à moins de 2 semaines, ces infrastructures doivent être déjà implantées. L'objectif, c'est que toute personne habitant les villages au Maniema doit avoir à côté de sa maison au moins une petite plantation de produits pérennes. Et la dernière, c'est la structuration même de l'agriculture dans la province du Maniema. Cette structuration qui veut que dans chaque territoire, dans chaque village, les gens qui sont dans une filière puissent se constituer à coopérative. C'est très important. C'est pour cela qu'à travers la vulgarisation, nous envoyons des missionnaires dans toute la province pour essayer d'expliquer à la population que la relance de l'agriculture passe aussi par les mouvements associatifs, notamment par les coopératives. Donc, ce que nous allons faire, c'est la structuration de l'appui du gouvernement pour qu'effectivement les Maniema, tous ceux qui ont vécu de l'agriculture, puissent reprendre l'activité agricole.
Les Maniema a un sérieux problème de connectivité. Quelle politique que vous avez pour acheminer toutes ces semences dans les territoires?
Pour l'instant, nous sommes très handicapés. On n'utilise que l'avion et les motos. Mais comme vous le savez, nous avons un grand projet ici qui s'appelle Prédire et qui a l'ambition de pouvoir travailler sur les routes de cette agricole. Ce qui est de notre responsabilité, on va le faire attaquer le ministère de l'Agriculture. Mais je voudrais bien vous dire qu'il y a un ministre des ITPR et gouverneur des provinces qui doivent s'occuper des routes. Mais moi, je ne considère pas cela comme un frein. Je sais que la production que nous allons avoir va nécessairement aboutir à la réhabilitation des infrastructures. Nous avons des endroits, des territoires de Beni qui sont inaccessibles. Mais puisqu'il y a une grande production de cacao, les gens y vont là-bas pour chercher le cacao. Je voudrais que la connectivité ne puisse pas décourager les gens à produire.
Mais pourquoi dans la distribution des semences, vous privilégiez beaucoup plus les politiciens? Qu'est-ce que vous visez derrière les politiciens?
Moi, je ne privilégie pas les politiciens. En principe, toutes ces semences, nous les faisons pour la population. Et comme je l'ai dit, les plantilles que nous allons distribuer, on va distribuer obligatoirement. Là, on ne va pas demander aux gens leur avis. On veut que tout celui qui est en milieu rural puisse avoir une petite plantation à côté de sa maison. Donc, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais nous avons voulu de manière spécifique pour les Maniema, pas pour les autres provinces, que chaque notable, politicien ou pas, puisse avoir une ferme dans son territoire, dans son village natal. Et moi, j'ai dit aux gens, vous me disponibilisez un minimum, un maximum, bien évidemment, de 10 hectares. Moi, je vous accompagne à vous apporter la semence. Je sais pourquoi je l'ai fait pour les Maniema, puisque je sais que eux, ils ont un effet d'éclat. C'était levier. Les gens vont voir comment leurs politiciens, leurs notables, ils sont en train eux-mêmes de faire l'agriculture. Ça va les motiver à pouvoir le faire
elle-même. Un mot à cette population.
Je voudrais dire à tous ceux qui seront séduits par cette idée que si aujourd'hui, malgré la guerre, vous trouvez les gens du Nord qui vous sont un peu plus forts financièrement, le secret, c'est l'agriculture. Et ce sont les cultures pérennes. Les cafés, les cacao et les palmiers. Je voudrais vous dire que ça, si nous nous y mettons, c'est ça qui va nous sortir de la pauvreté. Et je voudrais attaquer que vous séduire aux gens du Maniema que le Maniema ne doit pas rester derrière. Il faut que nous puissions prendre l'élan des autres provinces pour produire davantage et nous apporter des des richesses.
Mouindo Nzangi Butondo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le ministre Mouindo Nzangi, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et voilà qui met fin à ce journal du matin préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.